Bonjour à tous. Voilà, donc je suis heureux de vous revoir. C'est vrai que ça fait un peu plus d'une année, la dernière fois que j'étais venu, et pour présenter la mission, puis vous donner aussi nos dernières nouvelles de l'association missionnaire. Donc ça, je vais en parler tout à l'heure. Et on regardera aussi un diaporama photo qui vous montre un peu ce qu'on vit sur place avec nos frères et sœurs qui sont au Tchad. Voilà, parce que là-bas, en fait, pour le moment, je suis le seul de France à partir. Après, il y a beaucoup de frères et sœurs en France qui nous soutiennent, et Dieu merci. Et on est vraiment reconnaissant pour vous tous, pour ce soutien qui nous encourage et qui nous permet d'avancer. Mais je vis là-bas avec des frères et sœurs tchadiens, et certains sont du Cameroun, et sont aussi des amis proches avec qui on fait la mission. Voilà. Et après, on espère aussi qu'avec le temps, des frères et sœurs en France et dans d'autres pays pourront nous rejoindre, peut-être juste pour nous visiter ou travailler avec nous selon là où le Seigneur et comment Dieu les conduira. Donc, avant de vous parler de la mission, j'aimerais partager un message avec vous. Ce n'est pas un thème facile, mais je crois que c'est vraiment important. La parole de Dieu est ce qu'il y a de plus important, ce qu'il y a de plus précieux. Et je crois que c'est un message que Dieu a mis sur mon cœur. Et que j'ai vraiment voilà, le désir, et je crois que ça vient du Seigneur, de vous partager. Donc on peut faire une première lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7. Donc dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7. Et c'est une parole de Jésus, donc au verset 12. Donc, l'évangile de Matthieu, chapitre 7 et verset 12. Donc, tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseigne la loi et les prophètes. Et il y a un autre texte dans Lévitique, donc le troisième livre de la Bible, qui n'est pas si difficile que ça, puisque parfois c'est un livre, on a un peu des réticences à vouloir le lire. Mais c'est dans ce livre-là qu'on trouve pour la première fois Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est un livre qui peut être aussi très pratique dans beaucoup de passages par rapport à notre vie de tous les jours, en fait. Et là, ce qu'on va lire, c'est pas compliqué. Donc, dans le chapitre 19, à partir du verset 9, donc c'est des lois que Dieu avait données à son peuple Israël, donc quand ils étaient sortis de cet esclavage de 400 ans en Égypte. Et il y a beaucoup de lois, évidemment, alimentaires, qu'on connaît, mais beaucoup de lois sociales aussi. Voilà, beaucoup de lois concernant la justice et l'amour du prochain. Et je fais la lecture à partir du verset 9. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas dans ton champ, jusqu'au bord, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu le laisseras aux pauvres et à l'étranger, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas de vol et vous ne recourrez ni au mensonge ni à la tromperie les uns envers les autres. Vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car ça serait déshonorer le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Donc à chaque fois, je suis l'Éternel revient tout le temps. Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne prendras rien par violence. Tu ne garderas pas chez toi jusqu'au lendemain la paye d'un salarié. Tu ne maudiras pas un sourd. Et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Mais tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne commettras pas d'injustice dans tes jugements. Tu n'avantageras pas le faible et tu ne favoriseras pas non plus le grand. Mais tu jugeras ton prochain avec justice. Tu ne propageras pas de calomnie parmi ton peuple et tu ne t'attaqueras pas à la vie de ton prochain, je suis l'Éternel. Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain si tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Et il est dit, tu te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Et on va un peu passer au verset 34. Il est dit aussi, vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Et en fait, dans toute la Bible, il y a des centaines de versets, de passages qui vont dans le même sens, dans la même direction. Et c'est vrai que l'amour du prochain est vraiment fondamental dans toute l'Écriture. Jean dira aussi dans son épître qu'on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas, puisque Dieu, nous ne le voyons pas avec nos yeux, en tout cas physiquement. si on n'aime pas notre prochain, notre frère, notre sœur, que nous voyons et qui a été créé à l'image de Dieu, puisque chaque être humain est créé à l'image de Dieu, et encore plus, bien sûr, notre frère et sœur dans la foi qui a reçu la vie de Dieu en lui. Et c'est vrai que plus nous aimons les autres, plus nous aimons Dieu. Et plus nous aimons Dieu, plus nous aimons les autres. Et je crois que cette parole de Jésus aussi qu'on a lue, hein, qui est très simple au tout début, va vraiment à l'encontre de notre monde et puis de notre nature égoïste. Alors souvent dans le monde, on entend les gens dire « il ne faut pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'ils nous fassent ». Voilà. Et ça, c'est vrai que le premier à avoir dit ça, c'est quelqu'un, donc un rabbin qui est très connu en Israël, qui a vécu avant l'époque de Jésus, qui s'appelle Hillel, qui est le grand-père de Gamaliel qu'on trouve dans le livre des Actes. Et c'est le premier à avoir résumé toute la Bible avec cette parole que les gens du monde ont repris. Voilà, on sait que ce n'est pas bon de faire du mal parce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse du mal. Et puis Jésus a repris cette parole, mais dans le sens positif, en disant non seulement on va s'abstenir de faire du mal aux autres, mais en plus on va leur faire du bien. Et Jacques le dit aussi, celui qui sait faire le bien mais ne le fait pas commet un péché. Donc la grâce de Dieu nous amène à manifester des œuvres et à aimer, parce que Dieu est amour, il nous aime pour ce que nous sommes et pas pour ce que nous faisons, puisque son amour il est parfait, il est inconditionnel, et il s'est donné pour nous qui étions ses ennemis dans l'égarement, dans le péché, dans la haine et la méchanceté. Le Seigneur est venu à notre secours pour nous sauver, pour nous aimer et nous bénir malgré notre état, puisqu'il nous a aimés le premier. Et maintenant qu'il nous a aimés, qu'il nous a donné cet amour-là, bah, il nous amène à changer de vie, à changer d'attitude, à changer de comportement et à ne plus vivre comme ceux qui nous entourent. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, et c'est vraiment quelque chose de clair, hein, quand nous voyons le monde et la société qui nous entoure, aujourd'hui la mode est vraiment l'inverse de ce qu'enseigne la Bible. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous qui vont vraiment à l'encontre de ce que Dieu veut pour notre vie personnelle. Et les gens du monde, des fois quand on discute tout ça, il y en a certains qui me disent « mais c'est vrai ce que tu dis parce que quand on apporte du bien aux gens, on est heureux. » Voilà, on sait que l'empathie, l'entraide, tout ça, l'altruisme, ça rend heureux finalement. Et avec le Seigneur, on a un amour qu'il met en nous qui n'est plus même conditionné par l'intérêt ou parce qu'on a envie de se faire voir ou parce que la personne peut nous apporter en retour. Mais naturellement, comme Dieu est amour, c'est sa nature même d'aimer, parce qu'on ne dit pas qu'il a de l'amour, mais qu'il est amour, nous allons aimer les autres et vouloir leur bien, vouloir leur bonheur en fait. Et la plus grande des choses, bien sûr, c'est qu'ils puissent rencontrer le Seigneur comme sauveur et comme Seigneur personnel. C'est ce à quoi on aspire. Donc ça sera plus difficile finalement d'aller vers les autres pour les aider, pour leur apporter de l'amour. Et c'est un amour qui va même jusqu'à aimer ses ennemis et prier pour ceux qui nous maltraitent et bénir ceux qui nous maudissent. Comme dira Paul aussi dans son épître, « Bénissez et ne maudissez pas, et soyez vainqueurs du mal par le bien. » Donc on nous fait du mal et on rend du bien. C'est vraiment ce à quoi Dieu nous appelle. Mais bien sûr que c'est impossible par nos propres forces, par nos capacités. On n'est pas capable. C'est possible par la vie que Dieu il a mis en nous. Si on se laisse guider et conduire par le Saint-Esprit, on pourra manifester cet amour et on aura envie de le faire. Mais si on se laisse conduire par notre chair et puis par notre vie naturelle, hein, qu'on a reçue à la naissance et qui s'oppose naturellement à Dieu, forcément on vivra toujours dans le péché et on n'aura pas cet amour parfait de Dieu en nous qui se manifestera. Et Dieu, c'est aussi un Dieu de justice qui aime le bien et qui déteste le mal. C'est aussi un Dieu de sainteté et qui attache beaucoup d'importance, et puis on va le voir un petit peu dans la Bible, à la justice sociale. Et c'est vrai que parfois, on n'en parle pas beaucoup, alors que si vous lisez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a des milliers de versets, sans exagérer, qui nous parlent de la justice sociale et qui, bien sûr, est lié évidemment à l'amour du prochain, puisque l'amour... Il se fait, il se construit aussi dans la justice, dans la sainteté et dans la vérité. Donc il y a quelques passages aussi qu'on va prendre. Alors je vais prendre les références. J'avais pris pas mal de notes, du coup. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais voilà, c'est pour bien me rappeler aussi des versets puis de certains passages qui sont vraiment importants. Donc, finalement, voilà, quel est le but de notre existence depuis que nous sommes sauvés? Qu'est-ce que le Seigneur il nous appelle à vivre et à faire? En fait, Dieu il nous demande d'être riches en bonnes œuvres. Et ce n'est pas faire des œuvres pour être sauvés, pour espérer un jour peut-être aller au ciel. Nous savons et nous le disons sans cesse dans le milieu évangélique, et c'est vrai aussi, que nous sommes sauvés par la foi et par le sacrifice de Jésus à la croix du calvaire. Il a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par nos actions, ce n'est pas par notre comportement. Mais après, Jacques, il dira aussi dans son épître, donc dans l'épître de Jacques, dans le Nouveau Testament, que la foi sans les œuvres, elle est morte. Il dira même, quelqu'un dira, tu as la foi, tu fais bien. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi croient en Dieu et ils tremblent. Et finalement, vivre une vie chrétienne, en suivant le Seigneur, sans manifester ses bonnes œuvres qu'il nous a préparées d'avance, c'est avoir la foi des démons. Puisque le diable croit en l'existence de Dieu, les démons aussi, et ils savent bien, ils sont certains que Dieu existe, que le Seigneur est vivant, ils le savent. Et finalement, cette foi, Jacques dira que, voilà, tu vas me montrer ta foi, tout ça, oui, sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. C'est pas par mes œuvres que je vais être sauvé, mais les œuvres viennent naturellement après la nouvelle naissance, une fois que nous rencontrons le Seigneur. Et des fois, on confond aussi avec les œuvres de la loi. Et les œuvres de la loi, quand on dit, oui, sans les œuvres, tout ça, dans l'Épître aux Romains, par exemple, il faut savoir que ce sont des lois principalement juives. Alimentaires comme le Shabbat, la cacheroute, la circoncision et les fêtes, qui effectivement, on n'est plus tenu forcément d'observer toutes ces choses-là. Après, on peut le faire dans la liberté, mais les œuvres morales de la foi n'ont jamais été supprimées, bien au contraire, parce que la grâce de Dieu nous amène à aller encore plus loin dans les œuvres et dans l'amour que dans l'Ancienne Alliance, que dans l'Ancien Testament. La grâce de Dieu va toujours plus loin que la loi, en fait. Voilà. Et l'amour du prochain, ce n'est pas seulement même notre frère ou notre sœur de sang, ou même notre frère et notre sœur en Christ, mais c'est chaque être humain que Dieu a créé à son image, qu'il aime et qu'il veut sauver, à qui on doit vraiment manifester cet amour. Donc, en fait, c'est le but de notre existence, c'est vraiment d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Et on peut résumer toute la parole de Dieu en ces quelques versets, finalement, qu'on a lus tout à l'heure. Et Jésus nous a rappelé ce but, et puis il nous montre l'exemple à suivre, puisqu'il a donné sa vie pour nous. Il est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour les autres. Et c'est vrai que la mode d'aujourd'hui, comme je disais, c'est vraiment l'inverse de ce que la Bible enseigne. La parole de Dieu, elle nous recommande le bien, l'entraide envers les autres, la bonté, la douceur, la bienveillance, la fidélité dans le mariage, ne pas être orgueilleux et fier, ni attaché au matériel. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Le sexe de toutes parts, l'infidélité qui mène au divorce, l'orgueil, la vanité, le stress des gens, la méchanceté et l'injustice sociale aussi. On va un petit peu en parler et je terminerai aussi là-dessus, puisque l'injustice sociale est aussi grave devant Dieu que l'idolâtrie ou l'immoralité sexuelle. Et bien souvent, l'idolâtrie, c'est le fait d'aimer quelque chose. Finalement, ça peut être le matériel, ça peut être l'argent. Ce n'est pas forcément une statue qu'on fabrique devant laquelle on va se prosterner. Ça peut être tout ce qui prend la première place dans notre cœur, qui n'est pas Dieu. C'est cela, l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, alors bien sûr, on peut avoir des moyens. Voilà, ce n'est pas un problème. Et on peut faire beaucoup de bien aussi avec les moyens que Dieu nous donne. Mais quand on est attaché à l'argent, donc l'amour de l'argent, c'est vraiment un problème. Le matérialisme, c'est un souci. Le fruit de l'égoïsme, finalement. Et Dieu, il ne nous a pas créés pour qu'on vive dans le but d'accumuler des possessions. Ce n'est pas le but de notre vie. Et on voit bien que dans notre société, beaucoup souffrent en France, et ont aussi des difficultés matérielles, n'arrivent pas à se nourrir, et j'en suis conscient. Mais on est quand même dans un pays riche, où nous sommes dans des villes propres et éclairées, il n'y a pas encore de guerre ni de conflit, Dieu merci, et on le remercie aussi. On sait, beaucoup mangent à leur faim, à la maison c'est les machines qui font le travail difficile, Donc, nous vivons dans une certaine abondance, finalement, mais cette abondance ne rend pas forcément l'homme plus heureux. Et nous voyons avec tous les suicides, la dépression, l'angoisse et l'anxiété que les gens peuvent avoir. Et j'avais entendu, c'était un pasteur qui disait ça, dans la classe de son petit-fils, il y a eu un élève qui avait 14 ans et qui s'est suicidé, qui s'est pendu, parce qu'il était désespéré de la vie. Et il y a beaucoup de personnes qui passent au suicide, qui font de la dépression ou qui prennent des cachets, des médicaments pour aller mieux. Et je ne dis pas ça évidemment dans un esprit de jugement, mais vraiment pour qu'on prenne conscience que ce monde ne peut rien nous apporter de bon. Et si nous avons de quoi nous vêtir, de quoi manger, puis de quoi boire, de l'eau potable évidemment, on remercie le Seigneur, c'est une grâce, mais ce n'est pas pour que nous puissions en jouir seulement pour nous-mêmes, mais c'est pour qu'on puisse aider d'autres personnes, pour qu'on puisse partager avec les autres, pour qu'on puisse apporter de l'amour et être véritablement une source de bénédiction pour nos semblables et ceux qui nous entourent. Donc, et alors, il y a un passage qu'on peut prendre dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 16, justement, concernant un peu la justice, parce que on va voir un petit peu ce que Dieu en pense. Voilà, parce que là, on a plus parlé de l'amour, mais justement par rapport à tout ça, donc c'est au chapitre 16 et puis verset 49. Et là, en fait, Dieu fait un reproche à la ville de Sodome à travers Ézéchiel. Donc il parle à Israël à travers Ézéchiel et il fait un reproche à Sodome. Et c'est vrai qu'on connaît la déviance de Sodome, notamment l'homosexualité, qui est aussi un péché, qui est aussi un gros problème dans notre société aujourd'hui. Mais là, c'est vrai que Dieu ne met pas l'accent là-dessus, même si on sait que ça a été vraiment quelque chose d'abominable qui s'est passé. Mais là, Dieu met aussi l'accent sur une autre chose qui est tout aussi grave, en fait. Donc au verset 49, voici qu'elle a, et il y a vraiment une ressemblance, en fait, avec la société et le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Parce que l'homme n'a pas changé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on n'a rien inventé. Ce qui se fera, c'est ce qui s'est fait par le passé. Ça se répète, et d'ailleurs, ça va même de mal en pire, à ce niveau-là. Voici quelle a été la faute de ta sœur Sodome. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une tranquille insouciance. Elle et ses filles, elle n'a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. Elles sont devenues arrogantes, et elles ont commis des actes abominables devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Donc là, nous voyons quel était le problème. Elle vivait dans l'abondance et elle avait une tranquille insouciance, c'est-à-dire elle vivait que pour elle-même. Donc c'était une société très riche, très développée pour l'époque. Et finalement, ceux qui étaient étrangers, ceux qui étaient pauvres, démunis, on s'en fichait, quoi. Voilà, on ne s'occupait pas d'eux. Et même, bien souvent, on pouvait même les exploiter et les asservir pour s'enrichir. Et c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Et on va le voir avec des faits concrets. Donc, Dieu a vraiment vu cela et ça a été pour lui abominable, en fin de compte. Voilà. On peut prendre encore d'autres textes, évidemment. Dans toute l'Écriture, en fait, le Seigneur nous parle de ça. On peut lire aussi dans le livre d'Ésaïe au chapitre 1er. Donc on va prendre deux autres textes. Au verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Et en fait, ce n'est pas opposé à la foi, mais c'est la foi naturellement va porter des bons fruits, tout simplement. Voilà. Donc on peut aussi passer, et on sait bien après que la grâce de Dieu, justement, nous amène à tout cela. On pourra lire, alors, peut-être dans Amos, voilà, on va prendre un autre dans Amos, mais on pourrait y passer toute la journée pour prendre tous les passages, surtout dans toute la Bible, en fait. Voilà. Au verset 14, chapitre 5, verset 14. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et ainsi l'Éternel, le Dieu de l'univers, sera avec vous, comme vous le dites. Détestez le mal et aimez le bien, faites régner la justice à la porte de la ville. Peut-être que l'Éternel, le Dieu de l'univers, fera grâce au reste de Joseph. Et au verset 21, il va même jusqu'à dire, Je déteste, je méprise vos fêtes, je ne peux pas sentir vos assemblées. Quand vous présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et puis il va dire au verset 23, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. Évidemment, ce n'est pas la louange, l'adoration ou les assemblées qui étaient un problème, mais c'est qu'il le faisait finalement dans l'injustice et dans la méchanceté. Donc il ne le faisait pas avec un cœur sincère et entier pour aimer Dieu et pour s'entraider et s'aimer les uns envers les autres, mais il le faisait avec un mauvais état d'esprit. Donc ce qui compte aussi, ce ne sont même pas les actions ou les œuvres que nous faisons, parce que nous pouvons aussi faire des œuvres avec un mauvais état d'esprit, par orgueil, par jalousie, par rivalité, parce qu'on veut montrer qu'on est meilleur qu'un tel, ou on va être prêt même à écraser l'autre pour ça. Et la compétitivité, bien sûr, ce n'est pas bon du tout. Tout ce que nous faisons doit être fait par amour. Voilà. Et d'ailleurs, Jésus aussi dira, c'est par l'amour qu'on a les uns pour les autres, déjà en tant qu'assemblée, en tant que communauté, en tant qu'enfant de Dieu, que le monde pourra reconnaître que nous sommes ses disciples. Hein, donc ce n'est pas faire pour faire, mais c'est faire évidemment dans l'amour. Voilà. Et avec la grâce, le pardon aussi, vers ceux qui n'ont pas des bonnes vies. Hein, voilà, on est appelé à les aimer, évidemment, et puis à leur partager cet amour. Et cette grâce que Jésus nous a faite, à nous qui étions aussi pécheurs et qui ne méritons pas. Et puis on reste bien sûr aussi des pécheurs qui avons été rachetés par la grâce de Dieu au prix de son Fils Jésus-Christ. Et ça, faut jamais l'oublier. Évidemment, dans tout ce que nous faisons. Donc, en fait, le vrai bonheur devant Dieu, c'est vraiment de vivre et de manifester ses œuvres de la foi, de vivre pour que d'autres soient heureux. C'est tellement important. Et en fait, voilà, Dieu, il avait aussi institué à Israël donc beaucoup de lois en fait en faveur des pauvres. Il y avait le jubilé tous les 50 ans, la remise des dettes tous les 7 ans. Et bien souvent, quand ceux qui dominaient le peuple, aussi bien les chefs politiques et religieux, se sont laissés aller un peu à leurs désirs, à leur mauvaise nature, hein, à leur passion, à leur péché, bah, ça a amené vraiment de grandes catastrophes, la division, les guerres, les ravages et beaucoup de problèmes. Parce que beaucoup ont préféré se laisser guider par l'amour de l'argent, le pouvoir ou les biens matériels. Et aujourd'hui, la situation, alors pourquoi elle n'est pas tellement différente? Ben, vous savez, avec la mondialisation, il n'y a pas non plus une justice qui est pratiquée dans le monde. Et si vous voyez dans le livre de l'Apocalypse, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails là ce matin, mais il y a un système économique, politique, social et religieux que la Bible appelle le monde, qu'on peut aussi appeler Babylone dans la parole de Dieu. Babylone, la grande prostituée, on voit que ce système qui est en place dans le monde entier, donc peu avant le retour du Seigneur, c'est un système qui attache beaucoup de l'importance évidemment au luxe. Et il y a toute une liste de marchandises, je crois au chapitre 18 ou 17, donc il y a toute une marchandise. Voilà, donc vous voyez voilà, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, de la soie, voilà, voilà, plein de choses qu'on utilise hein, dans la vie courante. Et tout en bas de la liste, bon, il y a les animaux, et ensuite, les corps et les âmes des hommes. Pas seulement les corps, mais aussi les âmes. Hein, et je ne vous parle pas de ce qui se fait aujourd'hui dans notre monde avec les manipulations génétiques et tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va nous entraîner très loin. Mais il y a vraiment des choses qui se passent aujourd'hui, c'est vraiment à ne pas endormir la nuit. Et les corps et les âmes des hommes sont vendus et exploités en fait dans ce qu'on pourrait appeler l'esclavage moderne qui n'a jamais disparu. Et dans le monde, il faut savoir qu'il y a plus de 300 millions d'enfants et beaucoup plus en réalité qui sont esclaves. Voilà, l'esclavage est encore pratiqué dans beaucoup d'endroits sur Terre. Et sans parler après, évidemment, de l'exploitation voilà, de la méchanceté, de la haine, de la violence, du terrorisme, des guerres, des génocides, de tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Et on voit que pour ce monde-là, ce qui a le moins de valeur, bah, c'est l'être humain. Et quelle différence avec notre Dieu qui a donné Jésus-Christ pour ce qui, à ses yeux, a le plus de valeur, l'être humain. Quelle différence! Voilà, Jésus nous dit en plus, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais au ciel. et on s'amasse des trésors au ciel en faisant du bien à ceux qui nous entourent. Dans Apocalypse, au chapitre 14, il nous est dit aussi un moment, « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur dès à présent. » Donc là, on parle de ceux qui vont être tués à cause de leur foi en Jésus, qui sont persécutés à cause de leur foi, parce que leurs œuvres les suivent et se reposent de leur travail. Donc les œuvres nous suivront pour l'éternité. Les œuvres sont vraiment importantes. Le monde et sa convoitise passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Et tout ce qu'on aura fait sur terre aura un impact dans cette vie et dans la vie à venir. Ça, il ne faut pas s'y tromper. Voilà. On est sauvé par la grâce, mais la grâce nous amène vraiment à tout cela. Quand on lit la Bible, telle qu'elle est, voilà, sans peut-être arrière-pensée. Aussi, la mondialisation fait beaucoup de ravages. Donc, on va prendre quelques exemples. Prenons l'exemple du chocolat à base de cacao fabriqué à Madagascar. La plupart de ceux qui le produisent ne peuvent pas s'en payer, deviennent malades à cause des produits chimiques utilisés pour traiter les cacaoyers. Certains de ces villageois les plus pauvres ont des problèmes d'asthme ou des éruptions cutanées causées par l'utilisation de ces pesticides. Donc là, je passe rapidement et on va terminer un peu là-dessus. Le textile acheté à vil prix, à notre grande satisfaction, est souvent le produit de grandes multinationales qui sous-traitent avec des entreprises exploitant des enfants et refusant de payer à leurs ouvriers un salaire décent. Et puis beaucoup de produits qu'on utilise, comme la nouvelle technologie, ceux qui le fabriquent, évidemment, ne peuvent pas en jouir. Il y avait quelqu'un un jour qui disait, en Chine, les enfants qui font tous les jouets, tout ça, ils n'en profitent pas, quoi. Voilà. Et il y a beaucoup de choses qu'on va utiliser dans la vie courante, finalement, où ceux qui fabriquent ça le font dans des conditions de vie horribles et ne peuvent pas profiter et jouir du fruit de leur travail et finalement se retrouvent dans une situation d'esclavage, sont maltraités, exploités par rapport à cela. Et ça amène aussi des inégalités sociales entre ceux qui sont très pauvres et ceux qui sont très riches. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui me disent et puis qui trouvent un peu tout ça comme prétexte pour ne pas croire en Dieu. Mais toutes ces choses sont produites par nos mains. Parce que Dieu sensibilise les consciences. Dieu propose des solutions dans sa parole. Et la terre est immensément riche. Il y a de quoi nourrir plus de 13 milliards d'habitants sans problème. Mais s'il y a un enfant qui meurt de faim toutes les 10 secondes, selon certaines associations, et qu'il y a tous ces problèmes-là, c'est à cause de la méchanceté qui est dans le cœur humain. L'homme est un loup pour l'homme, et cela depuis la chute. Voilà, l'homme a toujours cherché à exploiter son frère, évidemment, pour dominer, et pour son égoïsme, en fait. Et aujourd'hui, quand on voit aussi, évidemment, le travail abusif des enfants, la pornographie enfantine, le trafic d'organes, la prostitution forcée de femmes et d'enfants, qui est un esclavage aussi effroyable, les migrations forcées, les génocides, les enfants des rues, les violences raciales, la justice corrompue dans beaucoup de pays, les persécutions religieuses. Il faut savoir qu'il y a, je crois, un tiers des chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi. Où on va brûler leurs maisons, leurs villages, on va même les empêcher de se déplacer et les maltraiter, leur faire du mal. Et parfois les tuer ou les emprisonner parce qu'ils croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, et puis le terrorisme, les tortures, tout ça, voilà, c'est ce qui fait partie aujourd'hui de notre monde. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Dans ce monde-là, nous pouvons manifester l'amour de Dieu. Il y avait une petite fille en Thaïlande qui avait dit un jour, est-ce qu'il est possible de naître une deuxième fois sur Terre? Parce que sa vie n'aura été qu'une vie de misère et de souffrance depuis qu'elle est née, parce qu'elle a été vendue dans un bordel où elle a été forcée de se prostituer 10, 15, 20 fois par jour à beaucoup de gens, en fait, et tous les jours, et en étant battue et maltraitée. Je vais juste aussi, alors il y a un livre qui est très bien, qui nous parle un peu de la situation des enfants dans la détresse, et qui propose, il s'appelle « Enfants dans la détresse », donc c'est en plus, ça a été écrit par un chrétien, qui nous parle des enfants qui sont forcés à se prostituer, dans beaucoup de pays, de l'esclavage par le travail, des enfants de la rue, et aussi combien d'enfants n'ont connu que la guerre depuis qu'ils sont petits, dans beaucoup d'autres pays aussi, où il y a des conflits armés, où il y a de la violence. Et ils proposent des solutions. Et finalement, on peut tous apporter quelque chose. On peut tous, par l'amour que Dieu il a mis en nous, on peut vraiment faire la différence dans la vie d'un enfant, d'une famille, ou d'un village entier, ou même d'une ville entière. Et le Seigneur utilise les faibles moyens que nous avons pour faire de grandes choses. Il a utilisé les 5 pains et les 2 poissons d'un enfant dans l'évangile pour nourrir une foule de milliers de personnes. Et parfois, vous savez ce qui peut changer la vie de quelqu'un. Et puis même en France, hein, bien sûr, il y a des gens qui souffrent autour de nous, qui ont besoin de l'évangile, qui ont besoin d'amour, de visite. Parce que quand je dis, voilà, quand je parle de l'importance de donner pour le Seigneur et pour les autres, c'est matériel, mais c'est aussi du temps. C'est aussi par notre vie de prière, en priant aussi pour toutes ces personnes-là, et puis en se rendant disponible pour ces gens-là, en leur rendant visite. Et puis des fois, un sourire, un verre d'eau, une parole, un mot gentil, bah, ça peut changer la vie de quelqu'un. J'avais même entendu le témoignage de quelqu'un qui voulait se suicider et qui ne l'a pas fait et qui est devenu chrétien parce que bah, un évangéliste est venu le voir et lui a parlé de l'amour de Dieu. Et en toute simplicité et avec pas grand-chose. Et c'est vrai que parfois, il y a beaucoup d'associations, d'œuvres en France et ailleurs bah, qui font vraiment des choses formidables pour le Seigneur et qui changent la vie de beaucoup de personnes par la grâce de Dieu, avec très très peu de moyens. Et voilà, il y a beaucoup d'associations qui proposent des soutiens justement aux familles, aux enfants ou à nos frères et sœurs qui sont persécutés et qui proposent aussi des parrainages d'enfants, des projets de développement et puis qui envoient aussi des frères et sœurs qui partent en mission justement pour apporter l'évangile et partager l'amour de Dieu avec ceux qui sont dans le besoin. Et avec tout être humain, bien sûr, que Dieu aime. Et finalement, je crois, frères et sœurs, qu'on est tous missionnaires. On est tous des missionnaires. On est tous appelés à servir et à manifester ces œuvres-là. Voilà, où que l'on soit. Forcément, on n'est pas tous appelés peut-être à aller en Thaïlande, mais on peut prier pour les enfants qui sont là-bas et peut-être donner à des gens qui partent là-bas pour les aider dans leur travail, et ce qui nous permet aussi d'aider ces enfants sans y aller. Voilà. Le Seigneur peut nous mettre à cœur d'autres pays, d'autres endroits, et déjà ça commence évidemment par là où nous sommes, nos proches, notre famille, notre entourage, nos collègues de travail, quand nous sortons dans la rue, hein, de toute façon, on vit dans un monde qui est désespéré, qui a tellement besoin de Dieu, donc c'est partout où Dieu nous envoie finalement. On est appelé à être sel et lumière et à apporter l'espoir à ceux qui n'en ont plus. Et à se laisser vraiment transformer par le Seigneur et pas se conformer à cette société, à ce monde qui voudrait qu'on vive dans l'individualisme, dans l'égoïsme, où finalement on ne va plus faire attention à l'autre. Parce que la Bible nous appelle vraiment à la générosité, à l'altruisme et au souci de l'autre. Et des fois, c'est juste même marcher dans la rue en faisant attention aux gens qui passent. Voilà. Ou en peut-être commencer une conversation avec quelqu'un dans le train ou voilà, n'importe où. Pour témoigner de cet espoir qu'on a avec le Seigneur. Voilà. Donc c'est vraiment ce que j'ai à cœur de vous partager. Je vais vous montrer quelques photos avec des explications un petit peu de ce qu'on fait. On peut prier le Seigneur et je vais vous parler de la mission. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Nous te bénissons Seigneur pour ta parole qui est merveilleuse, qui est parfaite et qui nous éclaire dans notre vie de tous les jours. Et Seigneur, nous te prions pour que nous puissions apporter du bien, du réconfort, de l'amour, avec bienveillance à tous ceux qui nous entourent. Nous voulons te prier aussi pour tous ces enfants qui sont dans des situations d'esclavage, qu'on mène à la mort à cause de l'injustice, de l'égoïsme et de l'avidité d'argent de certains. Et nous te prions, Seigneur, de les soutenir et de leur apporter ton amour pour qu'ils puissent te rencontrer, te découvrir et que tu mettes sur leur route des chrétiens, tes enfants qui t'aiment, qui te connaissent et qui pourront les aider et les soutenir dans leur vie. Seigneur, viens nous ouvrir les yeux et le cœur face à tout ce qu'on a vu ce matin, face à ta parole qui nous amène, Seigneur, à être riches en bonnes œuvres, à faire du bien à ceux qui sont dans la misère, dans la détresse, à soutenir les plus faibles et ceux qui sont démunis, et aussi à aimer nos frères et sœurs en Christ, dans l'amour, dans la vérité et dans la paix. Que Seigneur, par cet amour que tu veux nous donner les uns pour les autres, nous pouvons vraiment être un témoignage pour ce monde qui a tellement besoin de toi. Et nous savons, Seigneur, que tu reviens bientôt pour exercer tes jugements. Et Seigneur, nous te disons, Maranatha, viens Seigneur, viens établir ton règne. ton règne de paix, ton règne d'amour, ton règne de justice, et que tu puisses déjà régner dans nos cœurs par ton esprit, pour que nous soyons conduits et dirigés par ton esprit dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous disons. Et que, Seigneur, tu puisses nous trouver à l'œuvre, que tu puisses nous trouver fidèles à ta parole et étant vraiment des ouvriers qui se mettent au travail quand tu reviendras, Seigneur, dans ta gloire, pour que nous n'ayons pas à rougir devant toi et que nous soyons pas tièdes, mais bouillants et zélés pour ton service, pour cette cause de l'Évangile et pour tout ce que tu nous as préparé pour ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Je te prie de bénir tous mes frères et sœurs, leurs familles, leurs enfants, et de toucher aussi les cœurs des membres de leur famille qui ne te connaissent pas encore, et de ceux qui les entourent, Seigneur, de ceux qu'ils rencontrent au quotidien. Révèle-toi dans les vies, Seigneur, et viens délivrer, viens libérer celui qui est opprimé, celui qui souffre, celui qui est dans la misère, Seigneur, car oui, tu es un Dieu qui vient au secours, le Père des orphelins et le défenseur des veuves, et nous te remercions et te bénissons, Seigneur, de te connaître, toi, le Dieu d'amour, qui nous amène à changer de vie et à manifester ta grâce. Dans le nom tout-puissant et merveilleux de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Voilà. Donc soyez bénis, puis on peut juste voir quelques photos de la mission. Voilà, donc on a une petite... alors on peut mettre club d'enfants, du coup. Voilà. On a une petite association, en fait, au Tchad. Donc on travaille parmi la population là-bas, en fait, qui est principalement musulmane au Tchad. Voilà, donc c'est au centre de l'Afrique. Et du coup, depuis presque 3 ans, je vis là-bas avec des frères et sœurs tchadiens, donc avec qui on annonce l'Évangile. Et nous faisons, alors, dans les familles, des clubs d'enfants. Oui, voilà, de toute façon, j'ai pu... c'est bon. Ouais, voilà. Voilà. Ouais. OK. Voilà, donc ça, c'est vraiment les... C'est bien que vous voyez un peu les photos de ce qu'on vit. Donc, alors, je vis avec des frères et sœurs tchadiens, et puis certains sont du Cameroun. Donc, on vit ensemble sur le même pied d'égalité et on ne fait aucune distinction de race ou d'ethnie ou de tribu, quoi. Voilà. On souhaite vraiment développer ensemble la culture du royaume de Dieu. Voilà, la culture biblique. Et donc avec les enfants, c'est vrai qu'il y a certains enfants dans des familles qui peuvent être parfois un peu en difficulté. Alors disons qu'au Tchad, la plupart des familles vivent avec un repas par jour. L'eau qui sort des robinets ou des forages n'est pas potable. Donc il y a quand même une grande précarité au sein de la population, beaucoup de chômage et puis de corruption qui amène aussi la misère et la pauvreté, malheureusement. Donc après, on veut aider les familles et les personnes à être autonomes et à subvenir à leurs besoins par eux-mêmes, avec nos frères et sœurs en Christ qui sont là-bas. Et il y a des enfants parfois qui peuvent être aussi maltraités ou battus. Par exemple, on a une petite fille, sa maman, son mari était polygame. Donc là, il est parti avec la troisième femme et il l'a battue jusqu'au sang, quoi. Voilà. Donc la violence conjugale, hein, de toute façon, elle est partout sur Terre, malheureusement. Mais c'est vrai qu'on est parfois confronté à ce genre de cas. Et là, la petite fille, maintenant, elle est chez une tante. Voilà. Donc on lui a témoigné de l'amour, de l'affection. Elle va beaucoup mieux. Elle a accepté le Seigneur dans sa vie, mais ça a été pour elle des traumatismes. Et il y a des enfants dans des familles. Quand il y a trop de violence ou que parfois entre les épouses, entre les enfants des épouses, il y a des rivalités, il y a de la jalousie, il y a beaucoup de méchanceté. Donc les enfants, ils décident de quitter leur famille pour aller vivre et dormir dans la rue, ce qu'on appelle après les enfants de la rue, avec qui on travaille aussi avec un pasteur. Et les enfants de la rue, alors là, ce que vous voyez, c'est des enfants qui sont quand même dans des familles, mais parfois voilà, qui ne mangent pas à leur faim, qui ont beaucoup de problèmes et de difficultés personnelles. Donc on va aider pour des soins médicaux, pour leurs frais de scolarisation, pour des fois des vêtements, des choses comme ça, et aussi pour la nourriture. Voilà, des fois on va apporter des sacs de riz, des pâtes, et puis aider après les familles à travailler pour qu'ils puissent prendre soin de leurs enfants. Voilà. Donc on a beaucoup de frères, hein, qui font avec eux des jeux, des activités d'animation, des temps où, bien sûr, ils partagent la parole, puisque le but, parce qu'il y a beaucoup d'enfants musulmans qui viennent, mais c'est qu'ils puissent rencontrer Jésus-Christ et découvrir l'amour de Dieu. Voilà. Donc, on a eu d'ailleurs un enfant aussi qui s'appelle Apollinaire, hein, que certains connaissent, enfin ceux qui suivent nos nouvelles. En fait, il était dans la rue. Donc, c'est pareil, c'est deux parents alcooliques. Donc, ça se battait, ça se disputait tout le temps à la maison. Et il a commencé à prendre de l'alcool toxique, comme beaucoup d'enfants de la rue, qui sniffaient dans des bouteilles en plastique. Donc, ça les tue à petit feu, hein, ça les défonce vraiment. Et c'est un frère qui l'a recueilli chez lui, voilà, qui a décidé de le prendre. Et ça a pris quelques mois, parce qu'au départ, l'enfant, bah, des fois, il allait fuguer. Puis, il ne disait jamais la vérité, puis il prenait de l'argent, et c'était compliqué. Mais avec le temps, il s'est donné à Dieu. Et il est retourné chez sa famille, il va même à l'école, tout ça, il travaille même très bien à l'école. Et sa maman, elle tenait un cabaret. Alors, les cabarets en Afrique, c'est pas tout à fait... enfin, en tout cas au Tchad, hein, je sais pas, je connais moins, mais c'est des lieux vraiment où les gens s'alcoolisent. C'est vraiment des lieux de débauche. Et elle était alcoolique, hein, aussi. Elle a été délivrée de l'alcool parce qu'elle a accepté le Seigneur dans sa vie. Elle a été touchée, en fait, par l'amour qu'on lui a témoigné vis-à-vis de son fils, qu'on a recueilli à la maison. Il y a juste le papa pour qui il faut encore prier parce qu'il est toujours accro à l'alcool. Donc quand on apporte de l'aide à la famille, c'est plutôt à la maman qu'on donne, pas au papa. Mais il est quand même touché par ce qu'on fait. Voilà. Mais il est toujours lié voilà, par certains vices. Donc ce n'est pas évident. Mais en tout cas, voilà, et même la maman aujourd'hui, elle a un autre travail. Donc elle a démarré un petit commerce de poissons, de légumes qui lui permet quand même de subvenir à ses besoins correctement, voilà, de faire une activité saine, quoi. Voilà. Donc on fait des activités. Alors vous en faites pas, hein, c'est pas de l'eau potable, hein, qu'on utilise pour faire ces jeux-là. Voilà, parce qu'il y a aussi le fleuve qui est à côté, là où on est, donc on va se baigner et tout. Et pour l'eau, justement, alors quand on achète en bouteille, ça coûte cher. Souvent on filtre et parfois on achète des filtres qu'on donne à des familles où ils peuvent avoir comme ça de l'eau potable et de l'eau propre aussi pour boire. Voilà. Mais en tout cas, je suis le seul aussi, hein, comme je vous disais, de France. Donc, il y a aussi des frères et sœurs tchadiens qui sont là-bas, qui sont pour moi des modèles et des exemples dans la foi. Et je tiens à les remercier parce qu'ils me font vraiment grandir avec Dieu. Ils corrigent aussi mes défauts et puis ils me font avancer. Et sans eux, bah, toutes ces activités ne pourraient pas être faites. Et puis aussi sans vous, bien sûr, qui priez pour nous et qui nous aidez de différentes façons. Voilà. Donc, on est une famille et on a toujours besoin des uns des autres pour avancer. On peut mettre photo. Alors il y a quoi après? On peut mettre photo Bitkin. Alors je vais pas tout vous mettre les photos. Donc si vous voulez, hein, voilà, pour résumer un peu, il y a les clubs d'enfants qu'on fait dans les familles, les sorties d'évangélisation, voilà, où des fois on va prêcher dans la rue ou dans les familles, et les familles sont très accueillantes. Ils nous accueillent. Ouais, on peut mettre en mode diaporama. Ils nous accueillent avec au minimum de l'eau à boire et parfois de la nourriture. Donc il y a le sens de l'hospitalité qui est assez fort. Alors ça ne veut pas dire que les gens s'entendent forcément toujours, mais en tout cas, on mange ensemble dans le même plat avec la main et ce n'est pas un problème, même si on arrive pendant qu'ils sont en train de manger. Ils nous invitent aussi à partager le repas avec eux, tout ça. Ils sont assez conviviaux à ce niveau-là. Donc on apprend, hein, beaucoup sur le partage. Alors ça, c'était des frères et sœurs des États-Unis, mais ils font pas partie de notre mission, mais on s'était rencontrés, on avait eu un bon contact et voilà, on avait pris quelques photos. Là, c'est du coup un club d'enfants qu'on faisait parmi les enfants de l'école coranique. Il y a des enfants qui sont dans des familles et d'autres de l'école coranique. Les enfants de l'école coranique, ils souffrent aussi. Ils prennent pas de drogue, mais leur condition de vie n'est pas tellement différente des enfants de la rue. Ils sont battus, ils doivent ramener de l'argent pour leur marabout, ils sont obligés de mendier, même leur nourriture. Et il y avait un petit enfant qui s'appelle Yaroub. La première fois que je l'ai rencontré, il était malade dans la rue, il avait le palu et puis une maladie de peau parce qu'il dormait sur la terre, hein, même le sol. Et ils ont de l'eau à boire marron qu'on donnerait même pas à un animal ici, quoi, hein. Voilà, c'est leur condition de vie est compliquée. Et du coup, Yaroub, je l'avais amené à l'hôpital et il venait souvent à la maison pour manger, pour boire. Puis on priait ensemble, on parlait de Dieu. Et j'ai été voir son marabout et son marabout, il a été touché, bizarrement. Il nous a dit, dans mon école, j'ai une centaine d'enfants, parce que c'est les parents de ces enfants qui les confient dans ces écoles, je ne peux pas m'en occuper, Donc c'est bien que vous le faites pour eux, ils peuvent venir vous voir. Voilà. Ils savaient qu'on était chrétiens, mais on n'a pas eu de soucis, en tout cas à ce niveau-là, vis-à-vis des enfants. Et on pense que plus tard, en grandissant, bah, ils se souviendront bien sûr que l'amour que leur a témoigné les chrétiens, et ils se donneront aussi à Jésus. Quoi. Voilà. Même si étant petits, on ne peut pas les arracher de leur école, pour pas non plus avoir de problèmes graves. Quoi, hein. Voilà, on est obligé. Et là, c'est dans la famille de Yaroub. On était allé lui rendre visite parce que là, ça fait 3 ans hein, que je vous dis ça. Il a quitté son école. Donc, on était venu pour apporter aussi des choses à la famille, tout ça, un peu du matériel. Parce que la famille vit en pleine brousse, coupée de tout, comme à l'époque d'Abraham. Hein. C'est impressionnant. Ils vivent vraiment comme dans l'ancien temps. Et on avait raconté une histoire biblique sur la chute, donc un message plus d'évangélisation ce jour-là. Et ils nous avaient très bien accueillis, ils voulaient même qu'on reste dormir, tout ça. Ils vivent sous des tentes. Et ça, c'est les frères et sœurs de Yaroub, que vous avez vus là sur les photos. Et là, c'est mon ami, Mickaël, du coup, avec qui j'ai vécu voilà, quand j'étais au Tchad aussi. Voilà. Et puis qui continue, bien sûr, là-bas, à faire le travail pour le Seigneur. Voilà. Donc on est une quinzaine à peu près, hein, au niveau de l'association, en tout cas là-bas. On peut passer à photo, réunion de prière. On a aussi une église de maison dans un quartier musulman où on fait des réunions de prière, des études bibliques et des cultes. Et on a eu un qui s'appelle Abdel, qui a donné son cœur à Jésus, qui s'est converti et qui était musulman auparavant. Et sa famille a vraiment été touchée. En fait, au départ, ça a été compliqué parce que sa famille l'a rejeté. Et il a eu des cousins, tout ça, qui l'ont menacé de mort. Donc Abdel, était en difficulté. Et du coup, il s'est fait rejeter de chez lui. Donc il ne pouvait plus dormir chez lui. Donc on lui a trouvé une petite chambre à louer. Et puis maintenant, il a un travail, donc il est autonome. Mais au début, on l'a aidé quoi, pour ses besoins de nourriture, de logement, tout ça. Et maintenant, alors c'est un frère qui partage beaucoup d'amour aux petits-enfants. Et c'est vrai que parfois, là-bas, les grandes personnes ne vont pas passer du temps avec les enfants. Et lui, il s'amuse avec eux, il passe du temps avec eux. Il a vraiment un bon comportement, en fait, une attitude vraiment de paix, puis une gentillesse, et voilà, c'est incroyable. Et du coup, sa famille, ils se disent, mais oui, Abdel, il a complètement changé, quoi. Il est devenu quelqu'un de bien, parce que les musulmans reconnaissent quand même ça. Donc, il est devenu quelqu'un de bien, il fait des bonnes choses, c'est bien. Ils ne disent pas encore que c'est grâce à Jésus, mais ils sont plus agressifs vis-à-vis de lui comme c'était au début. Voilà. Ils ont accepté. Après, il ne peut pas retourner chez eux non plus. Hein, parce que, voilà. Mais il y a quand même une meilleure entente. Donc, Dieu merci. Voilà. Et puis là, nos réunions se passent comme ça. On se met en cercle. C'est très collégial, c'est convivial, c'est fraternel. Il y a bien sûr des pasteurs hein, qui viennent pour donner des enseignements, des messages. Mais il y a aussi des partages collégiales où chacun peut s'exprimer par rapport à la Bible. Voilà, ce qui nous permet de grandir ensemble. Et on est tous les jours ensemble. Hein. Là-bas, pour rendre visite à quelqu'un, on ne prend pas de rendez-vous. Hein. Les gens, ils viennent nous voir à tout moment et à n'importe quelle heure. Et nous pouvons aussi le faire vis-à-vis d'eux. Voilà. Et c'est vrai que la vie communautaire, ce n'est pas toujours facile, mais ça nous fait vraiment grandir. Et puis là, on se soucie de l'autre. Des fois, on n'a pas vu quelqu'un depuis longtemps. Même là, je suis encore en France. Mais par exemple, il y a quelques jours, j'étais au téléphone avec un frère qui est là-bas, quoi. Voilà, avec WhatsApp ou pour ceux en tout cas qui ont Internet, pour ceux qui n'ont pas Internet, en tout cas des fois c'est juste quelques minutes, pour juste voir tiens comment tu vas, et puis ça fait du bien. Voilà, on sait qu'on n'est pas seul et que la personne s'est souciée de nous et puis elle nous demande juste comment on va. Des fois c'est pas parce que la personne a besoin de nous dire quelque chose, mais c'est juste pour prendre de nos nouvelles. Et ça, je pense, dans une communauté, c'est important de le vivre parce qu'on a vraiment besoin de liens humains et les relations d'amitié sincères qu'on peut vivre, en fait, c'est un antidépresseur, je dirais, et puis vraiment un échappatoire face à cette vie moderne, oppressante dans laquelle on est. Quoi. Voilà. C'est vraiment un réconfort, quoi, l'amitié qu'on a déjà avec notre Dieu et qu'on a avec nos frères et sœurs en Christ. Donc voilà, alors je vais terminer par un petit témoignage, et puis voilà, comme l'heure passe vite, j'ai mis une table derrière vous avec un stand et vous pouvez venir pour prendre des flyers, des brochures. Et pour ceux qui veulent notre lettre de nouvelles et de prières, peut-être on peut mettre photo Mundu. Voilà, comme ça on peut laisser défiler, mais je ne vais pas expliquer. Hein, voilà, pendant que je termine, vous pouvez donner votre email pour ceux qui souhaitent notre lettre de nouvelles et de prières par mail. Vous pouvez donner votre contact, votre adresse email, et comme ça, on vous l'envoie donc tous les mois. Voilà. Et après, on a aussi, donc on travaille avec une association partenaire qui s'appelle Sournougou au Burkina Faso ou à Ouagadougou, qui parraine des enfants. Et on a des parrainages scolaires à 45 euros pour l'année et d'autres qui sont à 35 euros par mois qui permettent à l'enfant de manger à sa faim, de vivre correctement. Donc il est soutenu médicalement, scolairement, enfin à tous les niveaux, et ça aide aussi la famille. C'est des familles qui sont dans une grande précarité. Voilà, donc j'ai quelques dossiers aussi d'enfants avec moi. Donc n'hésitez pas en tout cas à venir me voir à la sortie. Et puis comme on l'a entendu dans le message, hein, pour ceux qui le peuvent bien sûr, je suis disponible. En général, je réponds à chaque mail et j'essaye vraiment de donner de mon temps selon mes capacités. Mais je serais vraiment content en tout cas de partager avec vous ce matin. Voilà, et je vous remercie. Et puis voilà, donc il y a un pasteur qui s'appelle Moïse aussi, qui loge chez lui une trentaine d'enfants de la rue. C'est un ancien enfant de la rue que le Seigneur a libéré de la drogue et de l'alcool par une sœur du Cameroun qui a été le voir avec la Bible pour lui dire « Jésus t'aime ». Et juste ça, bah, ça a complètement bouleversé sa vie. Il est devenu pasteur, il a été libéré de tous ses vices, de la violence. Il se battait avec des coups de couteau, tout ça, hein. Il était vraiment dans la délinquance. Et il a décidé de s'investir pour les autres et d'ouvrir sa maison pour les enfants de la rue. Donc il y a beaucoup d'enfants qui sont morts dans la rue, malheureusement, mais d'autres, et qui meurent des fois à 20-25 ans, qu'on a connus, mais d'autres, par contre, qui s'en ont sortis, et aujourd'hui, qui prêchent l'évangile dans les bus, dans les taxis et en pleine rue, quoi. Voilà, qui sont vraiment. Et qui vivent pour les autres, voilà, parce qu'ils savent d'où ils viennent et ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse, hein, qu'il vous comble de son amour, qu'il vous fasse du bien. Et puis, comme je le disais, ben, je reste vraiment à votre disposition pour la suite. Voilà, soyez bénis. Merci, Jonathan.